Comment ça? On peut en faire trop par rapport à sa dépression? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, l'épisode de podcast du jour est loin de te faire culpabiliser. L'objectif est de te montrer comment réussir à atteindre l'équilibre pour ne pas trop forcer et réussir à prendre soin de toi pour sortir de la dépression.
Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement tous, je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression, hein, et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs, afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti.
Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast. C'est un épisode que j'ai mûrement réfléchi. J'ai mis beaucoup de temps en fait à préparer cet épisode de podcast. Je l'ai torturé dans mon esprit pour qu'il sorte de la meilleure façon possible, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et pour éviter surtout de te faire culpabiliser. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à cet épisode de podcast, que je n'ai toujours pas annoncé le thème, mais comme tu l'écoutes, je pense que tu as dû le voir le titre. Comment on peut se retrouver à en faire trop par rapport à sa dépression? C'est une question qui peut paraître un petit peu étrange, mais qui est vraiment importante parce que c'est une situation dans laquelle de nombreuses personnes se sont trouvées, de nombreuses personnes que j'accompagne se sont trouvées, des membres de l'académie, Nine Daily Pression s'y retrouvent aussi, et moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation. Quand on veut sortir de la dépression, on veut vraiment ne plus avoir en pleine tronche le fait qu'on est malade. On en a marre en fait, marre de ne pas réussir à atteindre des objectifs, à faire des choses qui nous paraissaient simples à un moment donné. On en a marre de cette vie de stress, d'angoisse, de prise de médicaments, de rendez-vous chez quelqu'un pour aller raconter sa vie. On en a marre. Et ça, je peux entièrement le comprendre. Bibi est passé par là. L'une des choses, en fait, qui est assez intéressante, c'est qu'on va mettre en place plein d'actions pour sortir de la dépression. Mais quelquefois, on peut aller dans un autre extrême, c'est-à-dire en faire bien trop. Alors je pense que tu vas me dire, mais Manuela, franchement, j'ai l'impression de ne rien faire justement, de ne pas faire correctement. C'est parce qu'en fait, on se regarde avec le regard extérieur de la dépression. On ne se regarde pas avec l'œil de maintenant, mais on se compare à qui on était avant et à ce qu'on souhaite atteindre. On veut absolument que cette souffrance s'arrête. Et donc, on cherche tous les moyens pour que ça s'arrête. Mais quelquefois, à rechercher plein de moyens, ça peut nous faire un peu de difficultés et un peu nous faire mal. Le but de l'objectif de cet épisode de podcast, il est très simple. Te permettre en fait de t'aider à sortir de la dépression correctement, sans avoir en fait les conséquences d'en avoir fait trop. Parce que le fait d'en faire un petit peu trop, eh ben, c'est assez particulier. Ça peut faire vraiment beaucoup de mal, comme même ralentir le processus de guérison. Et c'est vraiment important que je le dise, c'est pas pour te faire culpabiliser, au contraire, sache que tout le monde le fait. Mais l'objectif ici, c'est de mettre en place les bonnes actions au bon rythme pour que tu puisses sortir correctement, sans trop de pression et de la meilleure façon possible face à ta dépression. Allez, je vais t'expliquer un petit peu déjà pourquoi est-ce qu'on a tendance à en faire trop. Déjà, ça veut dire quoi aussi en faire trop et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour sortir correctement de la dépression sans s'infliger une très lourde cadence, sans s'infliger une grosse difficulté émotionnelle. Pour sortir correctement et de la meilleure façon possible face à sa dépression. Allez, je t'emmène avec moi aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir. Alors, je t'entends déjà me dire, Manuela, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire en faire trop pour sortir de la dépression. Je comprends pas. Alors, en faire trop, déjà, c'est qu'est-ce qu'il faut d'abord faire pour sortir de la dépression? On a ce que moi j'appelle le minimum syndical. Donc le minimum syndical, c'est le point suivant, avoir une thérapie régulière avec soit un psychiatre ou un psychologue ou un psychopraticien. C'est l'obligation. Pour moi, c'est pas négociable, il faut cette option. Ensuite, on va avoir le package complet que moi je partage et que j'apprends aux personnes que j'accompagne, c'est donc bien sûr une thérapie, un travail sur soi avec mise en place des bonnes choses pour manger un petit peu correctement, mettre en place un peu d'activité physique, avoir une bonne hygiène de vie, travailler sur son sommeil, mettre en place les petits conseils par rapport à la dépression. Ça, c'est ce que moi j'appelle ce qu'il faut faire pour sortir de la dépression. Et pour certaines personnes, on va aller un peu plus loin, comme moi, c'est de prendre un traitement et d'être suivi par un psychiatre. Ce sont les actions que l'on doit faire pour sortir de la dépression. Mais la problématique que l'on a avec ces actions, c'est qu'elles sont longues, très longues. Quand on nous dit qu'un antidépresseur met un mois pour faire des effets, c'est compliqué parce que pendant un mois, on attend que notre humeur soit plus stable, qu'on ait moins de stress et d'angoisse. Et en fait, on arrive au bout d'un mois, ça n'a pas marché, on rebolote. Et puis on va essayer un autre. Ok, d'accord, j'essaye, mais ça marche toujours pas, donc ça commence à me gonfler. L'une des autres problématiques que l'on a dans cette lenteur liée à la maladie, c'est que 1 heure de thérapie par semaine, c'est génial. C'est ce que maintenant moi j'explique à mes patients, c'est qu'en fait, on va faire 1 heure par semaine, mais 1 heure par semaine, c'est que dalle par rapport à la vie entière d'une personne. Et du coup, d'aller rechercher, comprendre en tant que thérapeute, d'essayer de mener l'enquête pour comprendre les éléments qui alimentent la dépression ou qui l'ont créée, ça demande du temps. Une thérapie, on est parti pour une bonne année minimum. Donc ça aussi, c'est long. En attendant, c'est que la souffrance émotionnelle, elle reste. La fatigue, elle est là. Et on a notre quotidien à gérer. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes en dépression ou qui l'ont été, on a dû travailler, aller s'occuper de ses enfants, parce que les enfants, dépression, pas dépression, il faut le faire. On a dû, du coup, gérer la maison, gérer le travail, gérer la vie de famille, gérer les collègues, ou alors même des fois être à la maison, en arrêt maladie, en incapacité de faire quoi que ce soit, ou se retrouver au chômage, et être un peu perdu à la maison parce qu'on n'a rien à faire, et on s'ennuie, et c'est long parce qu'on n'a plus de contact social. En fait, il nous arrive tellement de situations assez complexes que la seule chose que l'on veut, c'est que ça s'arrête et qu'on puisse trouver une solution pour que la souffrance puisse se terminer pour aller bien. Et c'est souvent dans cet écueil que l'on va tomber parce qu'on en a marre. Et cet écueil, c'est d'en faire trop. Et du coup, c'est quoi en faire trop? Eh bien, par exemple, c'est de choisir plusieurs types de thérapies pour trouver la bonne. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas choisir d'autres thérapies? Quelle mauvaise thérapeute je suis. Au contraire, moi pour ma part, j'en ai fait plusieurs, de la TCC, de l'EMDR, des trucs comme ça, du FT. Franchement, il faut pouvoir tester des choses, parce que quand il faut aller récupérer des traumas, c'est bien d'avoir fait de l'EMDR, ou alors quand on a besoin de concret, du pratico-pratique, vive la TCC. Et il y a encore plein d'outils, parce que là ce ne sont que ceux que je cite, mais il y en a une palanquée. Et en fait, c'est vraiment génial de faire tout ça, mais quelquefois on en fait trop. Moi je me suis retrouvée à un moment donné dans une situation où je ne savais plus combien de thérapeutes j'avais la semaine. Et est-ce que c'est bon pour une santé mentale d'aller parler pendant 4, 5, 6 heures semaine sur plusieurs thérapeutes qui vont avoir plein de points de vue, qui vont apporter un axe de travail sans se rendre compte qu'en fait, entre les différentes thérapies, l'axe de travail, il se fait un petit peu, c'est un peu compliqué quoi. Donc, cumuler des fois beaucoup de thérapies pour arrêter, c'est compliqué. Après, il y a ceux qui cherchent la thérapie miracle, celle qui va faire qu'on s'arrête. Et ça, c'est en faire beaucoup trop, c'est-à-dire qu'on va chercher plein de thérapeutes pour qu'ils puissent nous permettre de nous dire ce qu'ils ne nous ont jamais dit et de nous faire comprendre qu'il faut qu'on trouve la méthode qui va faire en un claquement de doigts, en fait, faire disparaître la dépression. Sauf que ça, bien sûr, on est d'accord, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est assez frustrant, c'est que on part du principe, et moi j'ai vraiment eu ce principe-là, alors on n'est pas tous pareils, mais de se dire, on va voir la thérapie, on va prendre le traitement, Et ça va, on va avoir des étapes. Sauf que la problématique de la dépression, c'est que les étapes, elles sont pas visibles vraiment très rapidement, parce que c'est pas les étapes que nous qualifions d'importants. Par exemple, moi, je sais que pendant très longtemps, je trouvais que c'était pas terrible de prendre un traitement, que c'était carrément la honte, et qu'en fait, c'était grâce au traitement que j'y arrivais, et que c'était nul. Donc parce qu'on va avoir la culpabilité de la dépression, parce qu'on va vouloir sortir très vite, on va commencer à multiplier les thérapies, et c'est compliqué. On va avoir un autre phénomène que j'ai eu tellement de fois, c'est d'attendre avant de changer de traitement ou de dire à son psychiatre ou à son médecin que ça va pas et qu'il faut augmenter le traitement. Pendant très longtemps, je suis restée avec des doses de mon neuroleptique qui n'étaient pas assez par rapport à ma situation, parce que pour moi, augmenter le traitement, c'était la honte. J'en avais pas besoin. Il fallait absolument que j'y arrive sans les cachets chimiques. J'en prenais assez. Ce qui fait que quand j'étais pas bien, j'augmentais pas le traitement. Ou alors, j'ai pas été très anxieuse, mais je faisais quand même des crises d'angoisse assez particulières, et du coup il était hors de question que j'aille prendre un alprazolam, parce que faut que je me calme toute seule. Quand j'arriverai à un certain stade et que j'ai pas réussi à me calmer, il faut que j'en prenne un. Et je me suis jamais dit, pendant un petit moment, au bout d'un moment je me suis pris quelques claques et j'ai compris, je me suis jamais dit que au moment où ça commence, Manuela prend un traitement. Pour moi c'était j'y arrive pas par moi-même, il faut que j'y arrive. Et quelquefois j'étais dans des états pas possibles à la fin, parce que du coup, j'avais pas pris plus tôt le traitement. Et c'est assez frustrant parce qu'on se retrouve avec les conséquences après. Et je pense que pour le moral et la culpabilité, c'est horrible. On culpabilise à donf parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on aurait pu le prendre plus tôt, mais on l'a pas fait avant parce que, on veut prouver, on veut se prouver qu'on peut y arriver. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, j'ai mis du temps à faire cette vidéo de podcast parce que c'est naturel, c'est normal d'avoir envie de faire ça. On peut pas se dire c'est pas une bonne chose, au contraire, c'est normal d'avoir envie de pouvoir réussir à dépasser tout ça. Mais en faire trop, c'est attendre trop tard des fois de prendre le traitement. Et on peut trouver d'autres choses, c'est d'essayer de trouver des explications à absolument tout, d'essayer de calculer les moindres détails de notre existence pour trouver la moindre faille, pour trouver ce qui fait que c'est toutes ces actions-là qui fait qu'on fait trop, parce que on veut aller mieux rapidement, parce que on est lassé de la dépression, parce qu'on en a marre du regard des autres, parce qu'on en a marre de se voir et qu'on a l'impression de ressembler à une personne qui est complètement handicapée, c'est très compliqué, parce qu'on a de la pression personnelle, on veut aller mieux, on veut s'en sortir, et parce qu'on en a marre en fait. Donc tout ça c'est légitime, et c'est là où on va vouloir en faire absolument trop, et on va avoir du mal du coup à gérer certaines parties de notre santé, on va se faire du mal et en fait à un moment donné ça va se terminer en culpabilité. Il est important en fait dans cette réflexion d'aujourd'hui, c'est de voir que en faire trop, c'est naturel, c'est normal, on va tous plus ou moins aller se positionner sur ce terrain-là. Mais pour sortir correctement de la dépression, pour éviter de culpabiliser à donf, il est important de pouvoir faire preuve de maîtrise sur ce point. Alors, je t'entends déjà commencer à me crier dessus, pardon, faire preuve de maîtrise, Manuela, mais tu crois pas que je me maîtrise déjà depuis la dépression, tout ça, oh pardon, pardon, pardon. En fait, ce que je veux dire, c'est faire preuve de maîtrise, c'est de pouvoir en fait réaliser clairement le travail qu'on est en train de faire. Et c'est là où c'est le point le plus important, c'est que on réalise pas qu'on fait un travail de ouf. Le fait d'aller toutes les semaines raconter à un inconnu sa vie pour essayer de parler de que ses parents peut-être se sont foirés dans l'éducation ou que notre traumatisme a été terrible ou alors nous dire qu'on ne sait pas gérer nos émotions, c'est énorme en fait. Et je crois qu'on réalise pas à quel point le travail qui est déjà mis en place, ce minimum syndical que moi je dis, il est déjà incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, pendant 18 mois, n'ont pas été faire ce travail. Parce que ça demande une force importante d'aller commencer pour faire, en fait, tout simplement, une thérapie. Et on réalise pas, en fait, que c'est un travail de fou. On réalise pas que décortiquer sa vie, prendre le temps de réfléchir, c'est quelque chose de génial. Et tu peux être fier de toi d'avoir fait ça. Par contre, il y a une contrepartie. C'est que les avancées, tu ne vas pas forcément les voir. Moi, je sais que c'était un truc qui me rendait dingue, c'est que j'avais l'impression que je n'avançais jamais. Et je ne disais jamais à mon psychiatre « Est-ce que j'avance ?» parce que pour moi, c'était la honte. Bon, moi, j'avais honte absolument, j'avais honte de la terre entière, j'avais tellement honte de moi, que maintenant, en tant que thérapeute, je prends le temps d'observer les avancées. Et en fait, les avancées, elles ne sont jamais là où on s'y attend. Par exemple, moi, le fait qu'une personne soit capable de se confier à moi est une avancée. Le fait de pouvoir se dire « non, je ne vais pas faire telle ou telle activité parce que ma santé mentale est plus importante », c'est une avancée. Parce que je tiens à préciser que quand on est en dépression, on s'en fout, on fonce tête baissée, la santé mentale, on n'en a rien à faire, il faut qu'on avance. Le fait tout simplement de pouvoir même reprendre un travail, s'occuper de sa maison, et même un truc qu'on peut trouver nul, aller prendre une douche, s'habiller, mettre des chaussettes. Je sais que j'ai glandé pendant des semaines et des semaines chez moi en errant dans mes pyjamas sans prendre une douche. Et donc, quand on a l'impression qu'on reprend une douche des mois après, on dit que c'est banal et normal. Qui a dit ça? C'est pas vrai. Quand on a déglingué la dépression là, qu'elle nous a foutu la tête là par terre, la personne qui fait l'effort de casser notre esprit pour pouvoir aller faire des actions, c'est toi. C'est toi qui fais les efforts. Donc quand tu vas prendre ta douche tous les matins, quand tu vas au travail, quand tu t'occupes de tes enfants, ok, t'as peut-être pas fait le super goûter de la maman parfaite, mais au moins ils ont des chocs à pic. Le fait d'avoir tout simplement, oui, t'es au chômage et t'es à la maison et tu te reposes, ben bravo. Le fait tout simplement de rechercher des petites activités du quotidien pour te faire du bien, tu peux être fier de toi. Parce que qu'est-ce que tu es allé faire? Tu es allé contrecarrer la vision que la dépression a, c'est-à-dire l'envie de ne rien faire qui est naturelle, en mettant en place des petites actions. Même si tu as dormi tout l'après-midi, tu as pris le temps de te reposer. Et en fait, je pense qu'il est important que tu réalises que chaque action que tu fais te demande un effort, et des actions les plus simples. Et moi, ce qui me faisait rire en fait, et un jour ça m'est retombé contre moi, je disais à mon conjoint ceci, tu te rends pas compte que moi, juste m'habiller le matin, c'est super dur, que d'aller voir les collègues, c'est dur, de partager avec des gens, de sortir, de faire des courses, je veux pas être dans un Leclerc, je veux pas être dans un Carrefour, j'en ai marre, et donc tu es là, t'es en train de me demander, je crois que je sais même plus ce qu'il me demandait, de faire ça, et j'en peux plus. Et donc on s'est disputé, hein, comme tu as bien compris, et v'lan que 3 semaines plus tard, je pleure un peu dans mon coin, en disant à mon mari que je suis nulle, je sers à rien, de toute façon, ma vie est fichue, j'ai gâché ma vie, j'ai 27 ans, et en fait, c'est foutu, quoi, je suis en dépression, et ça partira jamais. Et je me suis grave fait arnaquer. Il me dit, mais Manu, tu te rends pas compte? T'as réussi à te lever ce matin? T'as pris ta douche, t'as pris ton petit-déj, tu t'es habillée. Là, t'es habillée, Manu. Et il me regarde, et je le regarde, je lui dis, mais c'est nul. Il me dit, bah non, parce que je me souviens de toi il y a 3 semaines, ma chérie, et tu sentais pas très bon. J'ai fait, ah bon, je puais. Il me dit, bah, j'osais pas trop te le dire. Et en fait, je suis restée focalisée sur l'odeur. Donc, il a essayé de me calmer, de me recentrer sur le truc. Mais j'avais très bien compris ce qu'il voulait dire et j'avais un petit peu seulement d'orgueil et d'ego pour dire à mon mari qu'il avait raison. Donc en fait, pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Parce que le plus important, c'est que tu réalises ce que tu fais. Même si tu penses que ce sont des choses banales parce que tu les faisais avant, rappelle-toi que quand on souffre de dépression, c'est notre esprit qui change sa manière de fonctionner. Et que là, tu nages à contre-courant, et toi, t'as l'impression de pas avancer, alors que je te dis que t'es presque à la ligne d'arrivée. C'est vrai que la dépression, c'est pas trop visible comment on avance, mais au fur et à mesure, on sent bien, au fur et à mesure, on arrive à atteindre des objectifs. Donc le plus important, c'est donc de faire attention à toi. Et comment est-ce que je fais ça? Eh bien, on est patient, et on est patient actif. Ça veut dire, quand je me prépare face à une crise d'angoisse. Je veux connaître les signes des crises d'angoisse pour aller prendre mon alprazolam, parce que j'en ai besoin. Je veux être capable de limiter les thérapies. Je sais que quand je peux faire 1 heure avec la thérapie, il n'y a rien d'extraordinaire qui sort, parce que ben c'est la réalité. Eh ben, je me dis quand même que j'ai fait ma thérapie de la semaine et que j'avance. je vais pas encore aller faire un milliard de recherches sur Internet pour trouver le truc alors que je fais déjà beaucoup de thérapie, que j'ai beaucoup lu d'articles et que j'ai fait plein de choses. Je suis pas en train de dire ne fais pas de recherche, mais n'en fais pas trop non plus. Ce que je veux dire, c'est sois conscient des vraies actions que tu es en train de mettre en place et de ce que toi tu veux faire. Pour réussir à te canaliser, alors tu vas me trouver un peu gonflée, hein, mais moi je trouve que que ça s'accorde avec le truc. Pour t'aider à canaliser, en fait, il te suffit de te fixer des objectifs. Si tu restes fixé sur des objectifs que tu te donnes à peu près à la semaine ou à la journée, tu vas voir, en fait, ça va te permettre de pouvoir voir comment tu avances sans en restant assez clair et précis. Qu'est-ce que je dis ? Moi, je te dis, tu te fixes au moins un objectif par jour et un objectif par semaine et un objectif par mois. C'est-à-dire que tu as 3 objectifs à atteindre et en fonction des choses. Par exemple, l'objectif du jour, c'est de se brosser les dents. L'objectif de la semaine est d'aller voir le thérapeute. Et l'objectif du mois est tout simplement de faire 1 à 2 balades dans le mois. Tu vois, ce sont des choses très simples. Pas besoin d'aller faire des choses compliquées. Si tu n'as pas trop d'idées, moi j'ai mis en place un petit guide gratuit où tu as plus de 100 actions que tu peux faire pour sortir de la dépression. Alors, faut pas faire les 100 actions, c'est plein d'idées où tu vas choisir à toi tes objectifs. Comme ça, tu restes dans ton minimum syndical, c'est-à-dire ta thérapie et ton traitement si tu en as, et puis les petits conseils que donne ton thérapeute, et puis tes petits 3 objectifs à toi. 1 à la journée, 1 à la semaine, 1 au mois. Pas plus. Et tu sais quoi? Ça va être ma nouvelle devise ici, sur ce podcast. Ce sera 3 objectifs. 1 à la journée, 1 à la semaine et 1 au mois. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu gonflée, parce que je te propose quelque chose et que je sais même pas si tu vas dire oui. Mais en tout cas, c'est ce qui, je pense, peut t'aider à faire des choses, à voir que tu fais des trucs sans te mettre une pression de malade. J'avais vraiment envie de prendre cet instant et de te parler avec le cœur. Tu sais, c'est l'une des premières fois où je n'ai pas de script écrit. Ça fait bizarre parce que j'ai toujours un script écrit. Et là, j'ai dit non Manuela, tu mets les grandes lignes et tu parles avec ton cœur. Parce que si tu parles pas avec ton cœur, tu vas pas avoir l'objectif que tu veux. Parce que des scripts, j'en ai écrit une flopée. Ce podcast, ça fait plusieurs mois que je le prépare, qu'il me stresse, alors que je veux le sortir. Je trouve qu'il est très important. Enfin, voilà, tu connais un peu Manuela et son côté loufoque. Je suis comme ça. Et puis voilà. Enfin, en tout cas, tout ça pour te dire que tu peux être fière de ce que tu accomplis. Et fière de comment tu avances. Parce que moi, je le suis, parce que je reçois plein de vos emails, plein d'échanges Instagram, et continuez à venir me parler, c'est trop cool d'avoir vos retours sur le podcast, c'est génial. Mais je vois que vous avancez, et en fait c'est ça qui est top, c'est qu'on avance. Parce que j'en ai plein qui me disent, Manuela, j'ai commencé une thérapie, même si c'était dur, je l'ai fait, ou regarde Manuela, j'ai repris le travail, c'est génial. Mais c'est top, donc sois fière de toi, sois fière de ce que tu avances. T'as mis une chaussette ce matin, trop bien. Tu t'es lavé ce matin, excellent. T'es allé au travail aujourd'hui, mais c'est génial. T'as réussi à t'occuper de ton enfant maintenant, mais sois trop fier de toi. Parce que c'est ça la réalité. Nous, on réapprend à vivre. On nous demande pas de devenir des athlètes. Alors le plus important aujourd'hui, c'est de prendre soin de toi et de ta santé mentale. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est un épisode de podcast qui est très particulier, qui me touchait beaucoup et qui, pour moi, était très important. Il est important de ne pas en faire trop pour sortir de la dépression, pour garder l'équilibre. En fait, l'équilibre est l'objectif qu'on doit tous atteindre. Et comme tu le sais, hein, l'équilibre demande un effort et on doit tous atteindre les objectifs. Même moi, je me force aussi à être équilibrée dans ma vie. L'une des choses que tu dois te rappeler, c'est que c'est normal d'avoir envie de sortir vite de la dépression. C'est logique, on en a marre de la souffrance. Par contre, sortir de la dépression, ok, mais pas au détriment de sa santé. Pour cela, n'aie pas peur, en fait, de ne pas faire assez. Tu fais déjà ton maximum. Tu as ta thérapie, tu as le traitement, si tu en as besoin, eh bien c'est génial, t'as déjà fait ton maximum. Maintenant, par rapport aux actions que toi tu peux faire au quotidien, eh bien tu as la version des 3 objectifs, 1 à la journée, 1 à la semaine et 1 au mois. Et pour cela, tu as le guide gratuit sur les 100 actions que tu peux télécharger de suite. Si tu es perdu face à ta dépression, que tu ne sais pas trop quoi faire, que tu as l'impression que tu n'avances pas, envoie-moi un mail à l'adresse contact mydailypression.com. Je me ferai une joie de te répondre car je réponds à tout le monde et sache un truc, tu ne me dérangeras jamais. Et le plus important, c'est de voir que tu fais des belles choses, que tu as des victoires. Note toutes tes victoires, tout ce que tu as réussi à atteindre. Et quand ça va pas, eh ben tu reviens et tu les relis. Tu verras, ça te fera le plus grand bien. Franchement, sois fière de toi encore une fois. T'as l'impression peut-être que je te félicite beaucoup, mais quand on a souffert de dépression et que sortir juste de la maison, c'était pire qu'une crise d'angoisse, je sais par quoi tu passes. Donc l'objectif aujourd'hui était de te rassurer, de t'encourager et de donner vraiment une partie de mon cœur pour te permettre vraiment d'aller de l'avant. Merci encore à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !